Ensemble sur Calade.
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 Ensemble sur Calade, c'est en direct du lundi au vendredi de 12h à 14h, évidemment sur Calade. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans cette émission Ensemble sur Calade, et ensemble on l'est jusqu'à 14h pour passer un bon moment et puis pour prendre des nouvelles de ce qui se passe autour de nous dans le Beaujolais. Mais d'abord pour ce qui se passe au-dessus de nous dans le ciel, eh bien les nuages sont toujours là, la pluie est toujours là également. Les averses devraient s'intensifier dans l'après-midi et les orages devraient éclater un peu partout dans le Beaujolais en début de soirée. Alors après l'orage, comme souvent, le soleil revient et c'est ce qui nous attend demain avec des éclaircies toute la journée. Et les températures qui sont entre 12 et 14 degrés aujourd'hui pourraient monter jusqu'à 16 à 17 degrés demain. Voilà pour la météo. Au programme de notre émission du jour, on prendra des nouvelles du studio STH à Audena qui nous a régalé sur les réseaux sociaux avec le Even Collectif pendant le confinement. On a également rendez-vous avec Weird Achik de la mission locale de Villefranche pour parler de l'emploi et des jeunes. On retrouvera un membre du groupe François 1er qui nous présentera leur musique. Vincent Pourageau de l'émission Cinérama nous parlera évidemment de cinéma. Georges Botton nous proposera son rendez-vous quotidien Mais la 11e. Et pour terminer l'émission, nous recevrons Sylvie Calais, autrice du Beaujolais, qui nous parlera de son métier et de l'impact que la période actuelle a eu sur celui-ci. C'est donc un programme chargé qui nous attend, mais avant de recevoir tous ces invités, j'aime commencer cette émission avec un morceau qui donne la pêche, et aujourd'hui c'est la Mano Negra qui assurera cette tâche avec Baby You're Mine. Vous êtes à l'écoute de Calade dans l'émission Ensemble sur Calade. Il est 12h14, nous sommes le mercredi 13 mai 2020. Merci d'être avec nous, bon appétit à ceux qui se passent à table.
Little beauty, start this trick with little eyes. She said it never fades, alright. You're looking for pretty girl, I'm looking for the answer, Ghana. So ever trash and your love that never die. Now baby, 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 you are. Baby, 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 you are. Next to your mama, what you been doing together? Got to your mama, I've been with you like a brother. Tell her she can't come see me too, babe, if she ever feeling blue now. Your love that never die. Now baby, 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 you ride. Baby, 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 you ride. And when I'm standing all around, catching on the telephone, say that you're my baby, 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 you ride. Hey. Never drop it, you're gonna stop me in the room. She said, said, tonight, tonight, some shake this like one of your two.
La Mano Negra sur Calade avec Baby You're Mine. Ensemble sur Calade, c'est évidemment sur Calade. Et il est l'heure de retrouver notre premier invité, c'est Mehdi Bouguima du studio STH à Audenas. Bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour Mathieu, ça va très bien.
Alors on vous avait reçu il y a quelques temps, c'était mon camarade Eddy Bernard qui vous avait reçu à l'antenne pour parler d'une vidéo que vous aviez postée sur les réseaux sociaux du Even Collective. C'est comme ça que vous êtes baptisé, et aujourd'hui eh bien, on vous retrouve pour prendre un peu des nouvelles, savoir ce qui s'est passé depuis. Alors déjà, est-ce qu'on peut commencer par représenter un petit peu le studio STH, qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, nous sommes spécialisés dans la production musicale et vidéo. Donc, nous avons réalisé cette année, on est sur deux albums. Donc, ça travaille tout doucement pour un petit studio du Beaujolais. Mais ça va, on va dire qu'on a quand même un certain turnover d'artistes. Donc, l'activité initiale, c'est effectivement de produire des œuvres musicales. Et puis parallèlement à ça, on forme également, dans un premier temps sur la production musicale, dans ce qu'on appelle la MAO. Ouais. Et parallèlement à ça, on forme également en batterie, en guitare et en percussion diverses.
Et la formation musicale, école de musique, pour tout âge
C'est ça, on commence à partir de 6 ans jusqu'à 77 ans.
Ouais. Et j'avais d'ailleurs eu le plaisir de recevoir le groupe Orso, dont il me semble vous avez produit l'album.
C'est ça, exactement. Et tout récemment aussi, une chanteuse qui s'appelle Javana qui est passée sur votre plateau. Donc j'ai pas pu suivre en direct l'émission.
Dans l'émission Recto Verso, oui.
C'est ça, exactement. Donc on a travaillé sur deux titres avec Javana, dont un titre avec un clip.
Pendant cette période particulière du confinement qu'on vient de vivre et qui se termine doucement avec le déconfinement depuis lundi, on vous a retrouvé très actif sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que vous n'avez pas chômé.
C'est ça, exactement. On s'est pas mal occupé pendant ces semaines de calme. Donc on a commencé par un duo voisin avec un violoniste, guitare. On a repris une œuvre connue qui est Bella Ciao, en mash-up avec donc mash-up mélangé avec un autre morceau qui a pas loin d'un siècle, qui est de Monty. Donc c'est la Xarda, une musique zigane andalouse très connue. Donc on a commencé par ça avec Bertrand Siffer qui habite juste la maison en face de chez moi. Donc à distance, on a travaillé sur un morceau, et donc on a décidé de l'enregistrer, de le faire partager sur les réseaux. Et par la suite, l'envie d'intégrer d'autres artistes dans le mouvement, et c'est là que est né le Heaven Collective 1 avec le morceau de Bob Marley, Three Little Birds, que vous avez diffusé d'ailleurs avec Eddy la première fois.
Ouais.
15 jours après, on en refait un nouveau. Donc le premier était avec 18 artistes, le deuxième contient 24 artistes. On est sur un morceau plus pop-rock années 90, donc des Fornons de Blonde.
C'est What's Up.
What's Up, exactement. Toujours dans un message comme Bob Marley pour, redonner un peu de baume au cœur en ces temps un peu difficiles.
Musique joyeuse, ouais. Comment est-ce qu'on organise ça pour réunir 24 musiciens autour d'un même morceau? Techniquement, ça demande des moyens. Comment ça se passe?
Ouais, c'est très éprouvant sur le plan logistique. On va dire qu'il faut déjà, dans un premier temps, contacter toutes les personnes concernées et qui vont pouvoir s'impliquer dans le projet correctement. Ensuite, envoyer donc une base musicale, batterie, basse et une ébauche de guitare, de manière à pouvoir donner un support à toutes les personnes à distance. Une fois que ces personnes à distance ont travaillé, elles ont souvent des outils pour enregistrer, donc soit une carte son, toujours un petit enregistreur qui traîne quelque part. Donc c'est comme ça qu'on a pu récupérer des bandes son de guitare, de piano, d'harmonica. Et ensuite il y a un sacré travail de mixage audio. Donc ça m'a pris à peu près pas loin d'une semaine pour arriver à rassembler ces 40 pistes.
Ouais.
Et pour finir, on attend ensuite les vidéos des artistes de manière à pouvoir faire le montage vidéo ce qui est totalement indépendant du mixage audio.
Parce que chacun se filme aussi, et donc on retrouve sur la page Facebook du studio STH le clip de ce morceau Fornon Blonde, What's Up, par le Even Collectif.
C'est ça.
Ça fait plaisir de voir des visages un peu connus de musiciens du Beaujolais, et puis d'avoir ce morceau, morceau joyeux qui donne la pêche.
Ouais, on a essayé de garder des personnes du coin, parce que ça vient du coin déjà avec le studio et dans le Beaujolais. Et puis c'est essentiellement des artistes avec qui on a déjà collaboré, avec certains on a gardé, on va dire, de bons rapports, donc ils étaient enchantés de participer collectivement à ce projet-là. D'ailleurs, pour clôturer les collectifs, on a l'intention d'organiser donc un collectif cette fois-ci, non pas virtuel mais réel, au studio, en rassemblant donc les 18 artistes du premier et les 24 du deuxième. Donc il y en a certains qui sont en doublon, mais on serait sur entre 30 et 35 artistes pour le troisième collectif, et qui serait fait enregistrer ici. Donc voilà, ça serait vraiment l'événement qui pourrait chapeauter un peu
une bonne façon de boucler la boucle, de pouvoir le faire physiquement, en vrai, et plus à distance, maintenant que le confinement est fini.
Voilà. Et pour finir, en fait, on a fait donc un petit concert à trois en famille, toujours confiné, bien entendu, en famille cette fois-ci, avec ma fille qui est à la batterie, qui a 5 ans, mon père qui a 65 ans, et moi-même, donc, tous les trois. Trois générations de musiciens, voilà, pour clôturer le confinement en musique aussi, c'était pas mal. Les voisins étaient ravis du moment passé du petit concert. Et puis voilà, on maintient également les cours, on a maintenu les cours pendant cette période en visio, donc de manière un peu plus réduite, puisque les cours en visio sont pas forcément le moyen le plus adapté pour enseigner la musique.
Oui, alors comment ça se passe justement pour faire un cours à distance? C'est individuel, de toute façon, j'imagine. Comment est-ce qu'on s'est mis en place?
C'est ça. Normalement, on a quand même certains cours qui sont collectifs, et là, on n'a pas pu. Donc, on est vraiment sur du cours individuel de 30 minutes par élève, dans lesquels on ne fait vraiment que de la théorie, de la lecture de partition, de la théorie et de la technique. Alors qu'en cours, on arrive à aménager une heure avec de la technique et de la musique,
ouais.
Donc de l'accompagnement de musique, ce qui est tout de suite qui rend le cours un peu plus agréable et plus ludique. Voilà, donc on a fait avec quand même, ça ne nous a pas empêché de faire évoluer tous nos petits élèves. Et puis là, on réouvre la semaine prochaine, donc du coup, on a informé que l'école réouvrait, et les élèves sont ravis de revenir.
De vous retrouver. Comment ça va se passer, cette réouverture?
Eh ben, avec des précautions, des règles de distanciation, d'hygiène, les masques obligatoires. Et puis on va faire comme ça jusqu'en fin juin, en espérant que la pandémie s'arrête.
Ouais.
Et le 27 juin, nous avions normalement un spectacle prévu à la salle des fêtes d'Odena, donc avec un concert, un repas et une heure et demie de spectacle. Passer à peu près une trentaine d'élèves. Donc on est un peu dans l'incertitude, on ne sait pas trop, on va attendre les directives nationales et communales pour savoir si le 27 notre événement aura bien lieu.
Ouais. Et s'il est interdit, vous avez des idées pour peut-être le reprogrammer plus tard?
Alors si vraiment la SAM n'est pas propice et que les règles font qu'on ne peut pas réaliser cet événement-là, on essaiera dans le village, dans un cadre extérieur, peut-être de faire une animation et de montrer quand même le savoir-faire de tous nos élèves, parce que ça me déprimait un petit peu de pas montrer le travail de l'année, les résultats, et puis de profiter d'un moment ensemble avec tous pour finir l'année, se dire au revoir, c'était quand même important.
J'imagine que oui, ça... C'est un moment important, le spectacle final, quand on a travaillé un an pour des élèves, de pouvoir montrer à la famille, aux amis, le travail qu'on a fait.
C'est ça. C'est ça, exactement. C'est ça, donc on avait vraiment la date qui n'est pas certaine encore, donc on verra ça à partir du 2 juin, on aura plus d'informations.
Et j'imagine que l'année prochaine, les cours vont reprendre comme d'habitude.
C'est ça. c'est ça, en septembre, les cours reprendront. J'espère que tout rentrera dans l'ordre et qu'on n'aura plus de contraintes de formation.
On vous retrouve en septembre, on va suivre votre actualité, et puis en attendant, on peut passer des bons moments en vous retrouvant sur les réseaux sociaux, en écoutant les morceaux que vous nous partagez, et puis avec aussi des super clips. Il faut parler de la qualité, notamment du concert de Jean-Jacques Goldman là, que vous avez fait à 3 générations, où il y a un très beau clip à retrouver.
Ouais, exact, on a toujours la qualité de l'image, puisqu'on essaye quand même de véhiculer un peu le travail qu'on fait aussi, que ce soit pour nous ou pour les artistes. On est toujours à la recherche du meilleur son et de la meilleure image. Donc voilà, c'est pour ça que ce qu'on fait pour nous, c'est ce qu'on fait pour les artistes également.
Ouais. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
On peut nous retrouver sur notre site www.studiostH.com, où là, effectivement, il y a toutes les activités du studio en production avec les œuvres qui sont diffusées assez régulièrement. Et puis également toute la rubrique formation musicale, toutes les informations sont sur le site internet www.studiostH.com.
Parfait. Je vous propose de se quitter avec le deuxième morceau du Even Collectif. On écoute What's Up.
Super.
Allez.
Avec plaisir.
Bonne fin de journée, à bientôt.
Merci beaucoup Mathieu, bonne journée.
C'est moi qui vous remercie. Donc tout de suite le Even Collectif What's Up sur Calade. C'était le Even Collectif qui reprenait le titre What's Up, donc une vingtaine d'artistes qui se sont réunis pendant le confinement pour nous proposer ce morceau sous la houlette du studio STH à Audena. Vous êtes dans l'émission Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur
Calade.
Et tout de suite, on retrouve notre seconde invitée, Ward Yachik, qui est directrice de la mission locale de Villefranche. Bonjour, comment allez-vous ?
Oui, bonjour. Bah, écoutez, très bien, très bien. Nous sommes pressés là, de pouvoir redémarrer parce que voilà, les jeunes nous ont manqué quand même un petit peu. Enfin, on les a eu beaucoup, on en reparlera, hein. Par téléphone, par mail, par SMS, Slack, Discord,
tous les Zoom, nouveaux,
etc. mais bon, voilà, il nous manque de les voir en visu, quoi.
Et
voilà.
Oui, pouvoir les accompagner, de les avoir à vos côtés, je veux bien vous croire. Alors, justement, est-ce qu'on peut déjà rappeler la mission locale, ce que c'est son objectif et peut-être son fonctionnement habituel, on va dire, puisque on a vécu des moments inhabituels.
Tout à fait. Donc, la mission locale, c'est une association qui est un petit peu particulière, hein, puisque bon, il y a 435 missions locales en France. C'est une association qui est particulière parce que à la fois c'est une association loi 1901, mais et la particularité c'est que elle a des missions de service public et elle fait partie du grand, comment dire, d'un domaine qu'on appelle le service public de l'emploi. Qui regroupe en fait, avec une tutelle ministère du Travail, qui regroupe Pôle emploi, Cap emploi et les missions locales. L'objet de ces structures, c'est l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sortis du système scolaire et qui ont entre 16 et 25 ans. Voilà, ça c'est l'objet de nos structures. Et il y a de nombreuses spécificités, particularités des missions locales, mais il y en a une qui est quand même importante, c'est que nous sommes cofinancés et co-gérés par trois principaux financeurs qui sont l'État, la région et les collectivités locales. Et donc nous avons une gouvernance locale. Hein, dans mission locale, il y a le mot local. Et donc nous, au niveau de notre territoire, nous avons 99 communes sur le périmètre de la mission locale Villefranche-Beaujolais. Et ces 99 communes sont regroupées en quatre communautés de communes ou communautés d'agglos qui pilotent en fait la mission locale. Donc bien sûr la communauté d'agglomération de Villefranche, la communauté de communes Saône-Beaujolais pour le Nord, la communauté de communes Beaujolais-Pierre-Doré, on va dire, pour le sud, pour faire court, sud-ouest. Et puis un bout de la communauté de communes, la communauté d'agglos de l'ouest rhodanien, d'accord, puisque nous avons la partie du Haute-Vallée de la Zergue, la Mure, ce coin-là, qui fait partie donc de notre mission locale.
Donc, voilà pour... Un grand territoire finalement, grand territoire. Et j'imagine que il y a beaucoup de jeunes qui comptent sur la mission locale, sur l'aide que vous pouvez leur apporter au quotidien. C'est quoi le public, qui sont ces jeunes, leur profil en règle générale?
Alors on a un public qui est quand même assez vaste, entre 16 et 25 ans. On a plusieurs profils. On a une population jeune, quand je dis jeune, c'est-à-dire dans la tranche 16-25, 16-18-19, voilà. Cette population, on a une partie des jeunes qui sont sortis du système scolaire, parfois un petit peu de façon précoce, et qui ont besoin d'être guidés, d'être orientés. Parce que souvent, quand ils sortent de façon précoce, comme ça, du système scolaire, ils n'ont pas eu le temps encore de travailler ou de faire des choix d'orientation. Donc, ils ont besoin de travailler sur un parcours de formation ou de préparation, on va dire, à l'emploi. Donc pour cela, il faut qu'on les aide à découvrir parfois des métiers,
des branches,
à les connaître, parce que pour faire des choix, il faut connaître. On ne peut pas faire des choix de métiers si on ne les connaît pas. Donc nous, notre accompagnement sur l'orientation, c'est de les aider à faire des choix de métiers. Voilà, c'est souvent ça.
Et alors, en cette dernière période là de confinement, vous nous avez dit que ça avait été compliqué de garder le contact, mais que vous avez su utiliser tous les outils numériques à votre disposition. Comment ça se passe alors maintenant la reprise
Alors, pendant le confinement, nous avons été en relation à peu près avec à peu près 2000 jeunes quand même pendant ces deux mois. Donc ce qui montre que les jeunes n'ont pas été non plus complètement, j'allais dire,
inactifs.
Enfin, ils ont, bien sûr, ils sont restés chez eux, mais ils n'ont pas été complètement inactifs. La totalité des contacts ont été numériques, téléphone, mail, bien sûr, et puis les réseaux sociaux. Donc, outre le téléphone, les Snapchat, Instagram, Facebook, etc., on a beaucoup communiqué avec les jeunes partout, avec tous les outils numériques. Et également, nous avons fait des visios aussi, parce que les jeunes, depuis quelque temps, il y a eu une période, si vous voulez, avec les jeunes, la première période du confinement a été une période où nous avons beaucoup, nous étions fixés comme objectif principal, c'est ce que nous avons fait, de maintenir le lien social. Parce que parmi les jeunes, il y a quand même il y a une partie des jeunes, mais comme des adultes, il y a une partie des jeunes qui étaient, très isolés, d'abord, sur le plan personnel, humain, voire géographique aussi, puisqu'on a un grand territoire. Donc il y a la question de l'isolement, et en cela, on les a aidés un petit peu à rompre un peu cet isolement. Et puis il y a la question aussi des angoisses qu'a procuré la situation là de cette pandémie, de cette maladie, qui a provoqué aussi beaucoup d'angoisse et la peur d'être contaminé, la peur de mourir, etc., etc. Et cette première partie a vraiment beaucoup consisté à rassurer les jeunes et à garder un lien social. Et ensuite, la deuxième partie, c'est un peu caricatural, mais la deuxième partie du travail a été de se projeter dans l'avenir. Un avenir proche, on va dire. De se projeter dans l'avenir, en fait, c'est l'ouverture au public de la mission locale. C'est ça, la première étape. Donc, sur cette projection-là, en fait, on a commencé à faire du travail, parce que pendant cette période, on a quand même transmis aux jeunes, parce que nous, de notre côté, on a été en relation avec les entreprises qui avaient des besoins, donc on a transmis aux jeunes quand même des offres d'emploi.
Toutes les offres d'emploi, ça a continué de recruter.
Tout à fait. Ça a recruté quand même sur certains métiers. Donc, du coup, on a transmis aux jeunes, et la préparation, on va dire, à la sortie du confinement, ça a été aussi de préparer des entretiens. Donc là, on a mis en place des préparations entretien en visioconférence. Donc, ce qui a permis aux jeunes, de travailler sur l'entretien de recrutement, l'entretien d'embauche. Donc là, les salariés, sont mis à travailler en visio avec les jeunes là-dessus. Donc, c'est ce travail de préparation. On leur a transmis quand même pas mal d'offres. On a transmis des offres d'emploi à 800 jeunes. Donc, ce qui est quand même,
c'est quand même conséquent.
Important. Voilà, on a aussi travaillé avec à la fois des entreprises et à la fois les parrains, puisque nous, on a un réseau de parrainage des acteurs économiques qui qui collaborent avec la mission locale à l'accompagnement
des jeunes,
des publics. Donc, et on a des parrains qui se sont, notamment sur le Nord, là, sur la CCSB, qui ont fait des simulations d'entretien avec les jeunes par visio.
Pour s'entraîner.
Donc, voilà, c'est intéressant. On a travaillé aussi, on en a parlé aussi, vous en aviez parlé parce que vous les aviez invités, donc la mission locale, un conseil consultatif jeune,
ouais.
Qui s'appelle Beaujolab. Et donc eux, on a travaillé aussi avec eux, on avait un rendez-vous hebdomadaire aussi avec sur une plateforme qui s'appelle Discord. Et donc là, les conseillers ont organisé avec les jeunes des groupes de travail. Je pense qu'ils sont très friands de pouvoir vous rencontrer.
On les recevra pour en parler du Beaujolab, voilà, sur notre antenne.
Ils vous expliqueront ce qu'ils font, parce qu'ils sont très contents de ce qu'ils font. Donc, ce n'est pas dévoilé. Mais bon, ça a été des rendez-vous hebdomadaires.
D'accord. Et donc la réouverture de la mission locale, j'imagine qu'elle est, ça demande beaucoup de travail de savoir, oui, comment accueillir du public. Comment est-ce, ouais, que vous la voyez? Est-ce qu'elle se dessine déjà un petit peu?
Oui. Alors on va dire qu'il y a, il y a plusieurs champs. Il y a la partie préparation des locaux. Donc là, on est organisé, on est en cours là avec. D'une part l'agglomération de Villefranche, les services de l'agglo, et d'autre part les services de la communauté de communes Saône-Beaujolais pour notre antenne nord qui est à Belleville. On est en train donc d'organiser la préparation des locaux, à savoir le nettoyage, la désinfection, etc. Ça, c'est une chose. Ensuite, la deuxième chose, là, nous, on est prêts aussi. On a préparé tout le matériel nécessaire pour préparer l'accueil des jeunes, c'est-à-dire les masques, les visières, etc., hein, pour mettre en place l'organisation de la distanciation sociale avec les jeunes, la gestion du flux. Donc les jeunes seront dans l'obligation de porter un masque à la mission locale. S'ils n'en ont pas, on va leur en fournir. On a préparé des masques pour les jeunes. On est très content parce que le département du Rhône nous a donné des masques. Donc ça, c'est vraiment, c'était inattendu, donc c'est super, on est content.
Je pense que oui, ils ont été accueillis avec plaisir, ces masques qui sont pas toujours faciles à trouver.
Non, ils sont pas faciles. Et puis on a quand même parmi les jeunes une population aussi qui a peu de moyens. Qui sont dans des environnements, une partie de la population qui est quand même très précaire. Donc, donc nous, on est là aussi pour. La mission locale n'était pas complètement fermée pendant tout ce temps, puisque nous avons maintenu une permanence hebdomadaire pour gérer un peu les situations d'urgence et en particulier tout ce qui gravite autour des situations de précarité. Des besoins de première nécessité alimentaire, etc. Donc voilà. Ensuite, l'organisation du travail, nous allons commencer à accueillir les jeunes on est en train d'organiser un planning de travail pour les conseillers, puisque on va petit à petit, il va y avoir un temps de travail qui va. Ils vont rester en télétravail une partie. Donc en fait, ça va être très progressif, quoi. On va ouvrir tous les jours, bien sûr. Mais le personnel va être un peu en roulement, quoi.
Ça va se faire petit à petit. Où est-ce qu'on peut retrouver les informations nécessaires pour suivre votre actualité sur votre page Facebook déjà, pour ceux qui...
Sur Facebook et sur Instagram. C'est les deux principaux. Les jeunes, ils regardent beaucoup plus Instagram, je pense, hein, parce que ça dépend des populations et des âges aussi. Mais nous, on a observé que les jeunes, ils sont plus sur Instagram. Mais sur les deux réseaux sociaux, on diffuse régulièrement à la fois des infos sur la mission locale et sur la préparation, l'ouverture progressive. Et d'autre part aussi, si vous y allez, vous verrez aussi qu'on diffuse des opportunités pour les jeunes, parce qu'il y en a en ce moment. Il y en a, hein, ça. Malgré tout, on est quand même inquiet, hein, sur la situation économique. Hein.
Ouais.
Mais il y a quand même des opportunités.
Le marché du travail est ralenti, j'imagine, mais il reste actif.
très ralenti, mais ça dépend. Voilà, il y a certains domaines qui restent actifs, oui. Ben, le commerce, par exemple, la grande distribution, la logistique, ça recrute quoi sur ces secteurs-là.
Wardia Chic, merci de nous avoir parlé de la mission locale. On pourrait en parler encore longtemps du marché du travail. Et j'imagine il y a aussi la question des formations. Est-ce qu'elles vont reprendre ou pas? On aurait pu en parler encore longtemps. Peut-être que ce sera l'occasion de se retrouver à un autre moment.
Tout à fait. Avec plaisir.
Merci d'avoir passé ce moment avec nous je vous dis à bientôt alors à l'occasion.
À bientôt, avec plaisir. Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir.
Au revoir, bonne fin de journée. On va faire une petite pause musicale. Ensemble sur Calade, on va faire une petite pause musicale avant de retrouver notre prochain invité, c'est le groupe François 1er. En attendant, on écoute les Beatles qui ont beaucoup travaillé cette nuit.
It's been a hard... I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay.
Les Beatles sur Calade avec A Hard Day's Night, morceau bien connu de nos auditeurs, j'en suis sûr.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Allez, il est l'heure de retrouver notre troisième invité de cette première partie d'émission. C'est Cyril, membre du groupe François 1er. Bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour Mathieu, très bien et vous-même ?
Eh bien ça va, merci. Alors vous êtes membre du groupe François 1er, qui est un groupe qui nous vient du Havre. Alors racontez-nous un petit peu l'histoire de ce groupe.
Alors dans le groupe, moi je suis un des petits nouveaux, un des derniers arrivés. Au départ, il tient vraiment sur deux personnes qui s'appellent tous les deux François. Donc c'est aussi à l'origine du choix du nom François 1er au pluriel, hein, parce que quand on le dit comme ça, ça ne comprend pas le S final à premier. Donc c'est aussi une référence à la création de la ville du Havre par François 1er en 1577, comme on est originaire du... C'est un groupe originaire du Havre. Donc les deux fondateurs de ce groupe, c'est Frandol et François Levas, qui sont tous les deux des rockers qui sont inscrits dans le paysage français depuis le début des années 80, avec différentes formations respectives pour François Levas et Frandol, comme Fix Duff, Roadrunners, Kitchenmen, Assalter Eggs, Backsliders, des choses qui ont tourné partout en France et même à l'étranger, entre, disons, le 81 et le milieu des années 90. Et le groupe s'est étoffé comme ça, donc on a trois François dans le groupe, donc deux guitaristes chanteurs et un bassiste, et on est Guillaume à la batterie, et moi-même Cyril à la mandoline et au tambourin.
Et alors, on ne l'a pas encore précisé, mais donc vous êtes plutôt un groupe rock, inspiré peut-être le rock des années 70-80.
Alors, ouais, c'est un groupe rock, ça c'est sûr, mais même avec certains côtés power pop. C'est un groupe qui est quand même pas mal influencé par le rock anglais des années 60, le rock australien des années 70-80. Mmh. Donc on retrouve dans ces influences du garage, bien sûr tout ce qui a gravité autour des Beatles, mais aussi des groupes un peu plus derrière dans la scène anglaise, comme les Animals, les Soroses, ou un peu plus récemment The House, et puis d'autres groupes australiens comme par exemple les Sunny Boys, les Easy Beats, Radio Borman ou The Sense.
Et votre musique actuellement, donc vous proposez des compositions, des reprises, qu'est-ce que propose le groupe François 1er ?
Et bien justement, oui, c'est ça, c'est que c'est un mélange de compositions récentes et de reprises non seulement dans l'histoire du rock comme ça, comme je disais par exemple les Sunny Boys, The House, The Animals, mais aussi des morceaux des formations précédentes des deux François. Donc par exemple des Speed Up ou même des Road Runners.
Très bien. Et on retrouve, alors récemment vous avez sorti un 45 tours. Un premier 45 tours qui est sorti en février. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet objet qui est sorti récemment ?
Bah oui, alors en fait cet objet c'est un clin d'œil à cette scène rock des années 80 qui sortait beaucoup de singles. Ça se fait de moins en moins parce qu'effectivement l'objet est pas spécialement rentable, mais c'est un bel objet. Donc nous on a fait élaborer la pochette par une figure de la bande dessinée qui s'appelle Riff Raff, dont je vous encourage à découvrir les différentes bandes dessinées. Qui est aussi impliqué dans la scène rock à Dresde depuis très longtemps, puisqu'il a lui-même dessiné logos et pochettes de groupes pendant différentes années, et il continue de le faire. Et ce single est aussi à l'image du groupe, puisqu'on a mis sur la face A une composition, Franciscopolis, et sur la face B, une reprise des Flaming Groovies dans The Future.
Très bien. Et alors, où est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux, j'imagine ? Vous avez peut-être...
Ouais. Sur Facebook, on peut trouver François 1er, donc ne jamais oublier de mettre un S à 1er. C'est les François 1er. Et les liens sont... On peut trouver les liens sur la page Facebook pour accéder, par exemple, au Bandcamp pour écouter la musique. Mais en fait, la musique, les deux titres sont en ligne partout, hein, sur tous les sites de streaming... que ce soit Spotify, Deezer, etc. Ça se trouve.
Très bien, et ben on va écouter, je vous propose d'écouter tout de suite Franciscopolis qui figure sur ce fameux 45 tours. Alors je ne sais pas quel mot utiliser, album, EP, je ne sais pas comment appeler.
On disait un simple pour un disque avec seulement deux titres.
Très bien.
En anglais, single.
Un single. Et bah parfait, merci beaucoup de nous avoir présenté votre groupe, les François 1er. Et donc on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Et puis ce bel objet, un beau vinyle avec une superbe pochette d'ailleurs, qu'on peut se procurer alors sur Bandcamp. Très bonne journée à vous.
Merci à vous aussi.
Au revoir, voici Franciscopolis sur Calade du groupe François 1er. Et quant à nous, on se retrouvera juste après les informations locales et régionales de 13h. À tout de suite.
Walking with you by the beach. Ensemble sur Calade.
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 Ensemble sur Calade, c'est en direct du lundi au vendredi de 12h à 14h, évidemment sur Calade. Et ravi d'être de retour avec vous dans cette émission quotidienne Ensemble sur Calade. Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent après les dernières pages d'information. On est ensemble jusqu'à 14h. On a encore rendez-vous avec Georges Botton qui nous proposera son rendez-vous quotidien mais la 11e. On retrouvera également Sylvie Calais, autrice du Beaujolais, qui nous parlera de son métier et de l'impact que la période actuelle a eu sur celui-ci. Mais tout d'abord, on retrouve Vincent Pourageau, animateur de l'émission Cinérama, qui régulièrement nous propose dans cette émission des conseils cinéma, et c'est un plaisir de le retrouver chaque jour. Bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour Mathieu, eh bien ça va bien. Par contre j'ai un retour, alors je ne sais pas si je vais faire une bonne prestation, j'ai un retour un peu bizarre en décalage.
Vous vous réentendez en retour ?
Oui.
Je ne sais pas si je vais réussir à régler le souci de mon côté.
Je vais trouver une solution.
Aujourd'hui, de quoi allez-vous nous parler, Vincent ?
Alors, je vais parler d'une plateforme de VOD, parce que la VOD, évidemment, a été mise en avant avec le confinement, vu que les salles de cinéma sont fermées, hein, jusqu'à nouvel ordre. Alors, évidemment, celle qui a pris les grosses parts de marché, c'est Netflix, mais moi, je vais vous parler d'une autre plateforme qui s'appelle Spamflix. Donc, évidemment, c'est un clin d'œil à Netflix. Et puis, le spam, alors, ça n'a aucun rapport avec les messages mails, qu'on reçoit. Et qui ne sont pas sollicités, hein, dans les boîtes mail. Ça, c'est un rapport avec un sketch des Monty Python. Voilà.
D'accord.
Et donc, si cette plateforme a été baptisée comme ça, c'est parce qu'elle a un petit catalogue d'une cinquantaine de films. Alors, il y a des films qui vont venir rejoindre ce catalogue toutes les semaines, mais c'est un petit catalogue, et puis c'est très ciblé, c'est-à-dire que là, c'est vraiment un choix éditorial précis sur des films cultes ou alors des films qui sont singuliers, qui sont programmés dans les festivals, qui sortent, soit qui sortent pas de leur pays d'origine, soit qui sortent peu. Donc, ça permet d'avoir une diffusion internationale.
Et alors d'où il vient ce catalogue ? Qui est-ce qui est derrière
Alors, la personne qui est derrière, qui a créé cette plateforme, s'appelle Marcus Döpfner. Alors, il se trouve qu'il est très lié au Festival international du film de Locarno. Là-bas, il présente 3 sections. Et puis, il est lié aussi au film français. Donc, bon, il a de nombreux contacts. Et puis, sinon, les films qu'on peut trouver, c'est les films dont il a pu avoir les droits. Parce que ça n'a rien d'évident, finalement, de présenter une plateforme avec des droits qui sont disponibles dans tous les pays. Voilà, il y a souvent, c'est des caractéristiques comme ça avec différents distributeurs pour chaque pays. Bon, là, c'est il m'a expliqué, et on l'entendra d'ailleurs dans l'émission Cinérama, parce que j'ai pu l'interviewer, il m'a expliqué que c'était pas forcément une chose facile à faire.
Oui, déjà, on connaît un petit peu les règles qui sont appliquées en France. Si chaque pays a ses propres règles, ça peut vite être le bazar. Ouais.
Alors après les films qu'on peut voir, sur tous ces films, il y en a peu que je connais, mais c'est ça qui est plutôt intéressant, c'est que c'est des films qu'on n'a pas l'habitude effectivement de voir. Et alors il y en a certains qu'on a vus en salle, je pense notamment aux Bonnes Manières, qui est un film brésilien. Alors le réalisateur a été meilleur réalisateur au Festival de Locarno en 2017. Puis il y a des réalisateurs de films cultes comme Alex Cox et Denis Coté. Et puis Quentin Dupieux, le français.
Monsieur Oiseau, pour son nom musicien, on va dire.
Oui, pour toute sa partie musique électronique. Donc Monsieur Oiseau, donc il y a un certain nombre de films de Quentin Dupieux qui sont vraiment des vrais films cultes. Et puis il y a aussi des courts métrages issus de partenariats, notamment avec le festival Court Métrange à Rennes. Donc c'est varié, il suffit d'y aller, spamflix.com. Là, je trouve en plus que c'est très agréable à voir. Alors la partie un peu négative, c'est que c'est en anglais. Alors, la majorité des films sont proposés quand même avec des sous-titres français. Mais bon, l'interface est en anglais. En revanche, on peut l'avoir. Alors, c'est ça qui est nouveau, parce que la plateforme existe depuis décembre 2019. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'elle existe sur tous les supports. Alors, il y a le web, il y a pour les iPhone, pour tous les appareils Android, sur Chromecast et Android TV, pour bien toutes les télévisions modernes.
D'accord. Spamflix, alors, une bonne alternative à toutes les autres plateformes qui proposent souvent des films un peu plus, on va dire, de cinéma populaire. Là, ça a l'air d'être une plateforme un peu plus pointue pour les cinéphiles.
Oui, tout à fait. Et puis pour les amoureux quand même d'un genre qui va vers la comédie noire, voilà, il peut y avoir des films violents. Enfin, bon, c'est vraiment un genre quand même particulier, mais il y a aussi des belles surprises, je pense. Et ça vaut le coup. Alors, j'ai pas donné le prix, mais c'est seulement 4 euros pour 72 heures de location.
Très bien. Spamflix, alors qu'on retrouve, vous nous l'avez dit, sur toutes les plateformes, sur tous les appareils, ça peut s'installer.
Oui, sur tous les supports, oui.
Quant à vous, Vincent Pourageau, on vous retrouve dans l'émission Cinérama à 16h sur Calade.
Oui, et dans mon sommaire, eh bien justement, il y a le fondateur de Spamflix, Marcus Döpfner, avec qui j'ai discuté une dizaine de minutes. Donc on pourra écouter eh bien cette interview et comprendre un peu mieux de quoi il s'agit. On va parler de The Room, un film qui sort en VOD, alors qui aurait dû sortir en salle, mais qui ne pourra pas sortir en salle. Donc le distributeur a choisi de le sortir ce jour-là, le 13 mai. Film de Christian Volkmann, qui est un Français, qui avait été très remarqué avec son précédent film d'animation. Et puis il y a aussi un autre film qui est sorti exclusivement en VOD, c'est Pinocchio de Matteo Garrone, film qui avait été présenté au Festival de Berlin. Et puis on parlera aussi bien cette fois-ci d'un DVD Blu-ray, hein, quelque chose qu'on peut tenir dans la main, Le Couteau de Glace. Donc ça, c'est un giallo des années 70. C'est Manu qui est le spécialiste des giallo qui nous en parlera. Voilà.
D'accord. Le Pinocchio, il me semble, l'acteur de Gepetto, c'est un acteur célèbre, je ne sais plus.
Oui, zut. Alors, c'est pas moi qui l'ai chroniqué, mais c'est Roberto Benigni, oui.
Oui, de la vie.
Oui.
De la voilà. Vie est belle, ouais. Un film ouais, que j'ai envie de voir, en tout cas. Et ben, je suis content de pouvoir en entendre parler dans l'émission Cinérama tout à l'heure à 16h sur Calade.
Alors le problème, Mathieu, c'est que si vous voulez le voir, il faudra quand même aller sur Amazon Prime, puisqu'il est en exclusivité là-bas, sur cette plateforme.
Voilà, d'accord, c'est jamais simple.
Un peu désagréable.
Super. Et ben, merci beaucoup. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure, pour vous proposer encore d'autres idées pour trouver des films ou de choses à regarder.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, à bientôt.
À bientôt.
On va faire une petite pause musicale avant de retrouver un second chroniqueur, c'est Georges Botton, qu'on retrouve chaque jour avec sa rubrique Mets la 11e. Je vous propose d'écouter Mathieu Chédid tout de suite, qui chante le film.
Quand la terre se démonte, tous mes démons remontent. Je me projette, je rembobine. Au loin des ombres se dessinent. Toute ma vie qui défile. Toute ma vie sur un fil. Je me projette, je rembobine. C'est fou tout ce qu'on imagine. Et si on arrêtait le film? Décédé mes vinyles, périmé mes études. Si on arrêtait le film, j'ai un coup des sons dans ma tête, j'ai un coup des sons sur mon île. Je m'en we
Mathieu Chédid avec ce beau morceau extrait de l'album Il, c'était le film sur Calade. Il est l'heure de retrouver tout de suite Georges Botton pour sa rubrique Mais la 11e.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Alors bonjour Georges, ravi de te retrouver aujourd'hui, comment vas-tu ?
Bonjour Mathieu, bah écoute, ça va bien, je te remercie. C'est dommage qu'il fasse un temps absolument minable, enfin c'est comme ça. Et toi, ça va ?
Eh bah, ben écoute, oui, ça va bien, ravi d'être toujours au rendez-vous dans cette émission et puis de retrouver tous ces intervenants régulièrement, dont toi, qui nous propose tous les jours la rubrique qu'on a appelée « Mais la 11e » avec un morceau de jazz et puis aussi hier j'ai dit des petites phrases, mais c'est souvent des grandes phrases en fait, des phrases d'auteur que tu nous dégote dans ta bibliothèque.
Des phrases d'auteur qui souvent méritent réflexion. Alors aujourd'hui, comme réflexion, je soumets, chers amis auditeurs et chers amis auditrices, je soumets à votre réflexion un auteur qui s'appelle Jacques Sternberg. C'était un Belge, il est né en 1923 à Anvers. Il est décédé en 2006 à Paris, il a vécu 83 ans. C'était un écrivain belge très prolique, et très prolifique, et c'était surtout un spécialiste des nouvelles. Il était francophone, bien entendu. Alors, je vous donne un dernier petit détail qui est important par rapport à la phrase que j'ai choisie après. Son père était diamantaire anversois, et il était d'origine polonaise, et il est mort en déportation. Alors, je pense que ce décès, ça explique peut-être l'humour noir de Jacques Sternberg. Jacques Sternberg, alors, il a dit une phrase que je trouve triste, qui est belle mais triste. Pourquoi chercher désespérément la clé du bonheur alors que, de toute façon, la serrure n'a jamais existé? C'est triste, mais c'est peut-être réaliste. Enfin bon, ça c'est autre chose. Alors maintenant, on va passer au jazz, parce que je vous ai sorti un superbe morceau par Count Basie et son orchestre. Le morceau s'appelle « Don't You Miss Your Baby ». Il a été enregistré le 13 octobre 1937 à New York. Dans ce groupe, dans cet orchestre, il y a un total, y compris Count Basie, de 15 musiciens. Vous verrez, c'est un morceau qui a une introduction absolument superbe au piano, pleine de légèreté et pleine de swing, qui est tout à fait le style de Count Basie. Et puis de 38 secondes à 1:04, il y a un joli solo de trompette, très délicat, presque timide, je dirais, par Buck Clayton. Et puis après, il y a du chant et un ensemble qui est très bon. Alors Count Basie, comme c'est quand même une grande figure du jazz, je vais vous en dire deux mots. Il est né en 1904, décédé en 1984, il a vécu 80 ans, né à New Jersey et décédé à Hollywood. Son père était cocher, sa mère blanchisseuse, et ce sont eux qui lui ont appris le piano. À 20 ans, en 1924, il est à New York, et alors il a commencé à fréquenter des grosses pointures, Fats Waller, James Fay, John Shodd, Willie Smith le Lion. Il est remarqué dans des émissions de radio, en particulier par le ethnomusicologue John Hammond, qui lui a procuré ses premiers engagements à Chicago et à New York. Là, je rappelle que les grands orchestres sont surtout enregistrés à Chicago et à New York. Et son orchestre, Count Basie, s'est imposé à côté de ceux de Benny Goodman et de Duke Ellington. En 1936-40, Count Basie a commencé à faire des tournées incessantes dans des salles de concert, hôtels, restaurants. En 1940-1950, il a eu des petits problèmes parce que, comme beaucoup de ses musiciens partaient pour la Deuxième Guerre mondiale, partaient en Europe, eh bien, il y avait un gros turnover de musiciens et c'était pas très facile parfois pour lui pour organiser. En 1954, donc là, Count Basie avait 50 ans, il a fait sa première tournée européenne, dont d'ailleurs à la Salle Pleyel à Paris. Et puis il a fait le Japon, l'Amérique du Sud, il a voyagé avec l'orchestre sur Queen Elizabeth. Et on peut dire d'ailleurs que de 1964 à 1984, l'orchestre de Count Basie était une institution absolument mondiale, du même niveau que Duke Ellington, avec des arrangements différents, mais c'était un excellent orchestre. En tant que personne, comme chef d'orchestre, il était très rigoureux, ses arrangements étaient méticuleux, et il était très exigeant sur la qualité auprès de ses musiciens. Pendant le jeu, Count Basie était un excellent chef d'orchestre, si on peut dire, même s'il n'avait pas de baguette, comme accompagnateur avec des petites phrases au piano très brèves qui relançaient un peu la machine, si on peut dire. il était très percutant, très redynamisant, disons, pour l'orchestre. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire rapidement de ce grand musicien. Donc voici « Don't you miss your baby » par Count Basie et son orchestre. Et moi, chers amis auditeurs, chères amies auditrices, je vous dis à demain, je vous souhaite une bonne journée. Et Mathieu, je te dis également à demain.
À demain, Georges, merci beaucoup. Bonne fin de journée, prends bien soin de toi.
Merci, toi aussi.
Allez, à bientôt.
Au revoir.
Count Basie tout de suite sur Calade avec « Don't you miss your baby ». Magnifique morceau de Count Basie, Don't You Miss Your Baby, c'était le choix musical du jour de notre ami Georges Botton dans la rubrique Mais la 11e.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Et oui, vous êtes dans l'émission Ensemble sur Calade et il est l'heure de retrouver notre dernière invitée du jour. C'est Sylvie Calais qui est autrice dans la région du Beaujolais, écrivaine. Bonjour Sylvie, comment allez-vous ?
Ça va, merci.
Quelles sont vos activités déjà ? Est-ce qu'on peut un peu mieux vous connaître, savoir ce que vous faites dans la vie ?
Oui, alors j'ai plusieurs activités qui tournent tout autour de l'écriture. Donc déjà, comme vous l'avez dit, je suis autrice. Donc j'ai écrit des livres, des récits, des romans, des polars. Donc, il y a 2 ans, j'avais eu le prix coup de cœur du jury pour Saint-Uranie, Priez pour nous, à la vague des livres de Villefranche, par exemple.
Ouais.
Et mon dernier livre, c'est un recueil de poèmes érotico-humoristique illustré par un peintre qui s'appelle Jeu de couple, qui s'intitule Jeu de couple et qui est publié aux éditions du Poutan, donc une maison d'édition locale. Et puis suis, en tant qu'autrice, je rédige également des ouvrages de commande. Par exemple, Les Murs Noirs. Donc, j'ai recueilli la parole de personnes qui ont été internées toute leur vie dans un foyer de charité pour personnes, pour jeunes filles incurables. Et à partir de leurs témoignages d'archives, j'ai rédigé ce livre qui a eu le prix Andy Livre. J'ai rédigé également des ouvrages pour le relais d'assistantes maternelles à Villefranche, pour les ouvrières de Le Jaby. Donc, soit je fais écrire les personnes et puis je mets en forme leurs écrits, soit je recueille leurs paroles et je rédige des ouvrages à partir de leurs paroles ou, comme je l'ai dit, d'archives. Donc ça, c'est mon activité d'autrice. Et puis, je suis également sollicitée pour des rencontres. Ça peut être en médiathèque, ça peut être avec des élèves, au lycée Claude Bernard, au lycée Louis Armand, par exemple, pour rester dans le local, ou un peu plus loin parfois. Ça, c'est tout ce qui est niveau autrice. Après, oui, j'accompagne aussi des personnes dans leur projet d'écriture, donc j'appelle ça du coaching en écriture, donc quel qu'il soit, hein, que ce soit autobiographique, autobiographie professionnelle, que ce soit un roman, donc c'est du cas par cas, on étudie chaque demande, on voit où en est le projet, s'il en est au point zéro, s'il a déjà avancé, quelle est l'aide demandée. Je fais aussi des relectures correctives à tout niveau, hein, style, orthographe, syntaxe. Voilà, toute la partie coaching, écriture qui est très, très vaste aussi.
Ouais.
Je continue.
Ça fait beaucoup d'activités.
Il y a déjà beaucoup d'activités et j'ai pas fini.
De diversité, vous n'avez pas fini.
Parce que on va dire la dernière activité, enfin c'est pas la dernière parce que j'en ai encore un peu d'autres, mais la grosse activité que j'ai aussi, c'est d'animer des ateliers d'écriture créative.
Écriture et Papyrus.
Voilà, avec Écriture et Papyrus, l'association basée à Villefranche, qui va bientôt, enfin dans un an, avoir 20 ans, et qui propose donc des ateliers, des stages d'écriture, donc in situ au Papyrus, hein, c'est un local qu'on a derrière la gare, mais aussi à l'extérieur, hors les murs. Alors, pareil, hein, je peux être sollicitée par des collectivités, des associations, des entreprises aussi. Je suis intervenue récemment dans une entreprise Saint-Germain-au-Mont-d'Or, juste avant le confinement. Et puis, dans les établissements scolaires, voilà, on était partis avec des troisièmes prépa métiers sur un projet autour de la fenêtre, l'imaginaire, la description. On est partis avec des CAP sur un projet sur le renforcement de l'estime de soi et avec un slam écrit par rapport à leur stage, enfin des choses comme ça. Donc c'est très très varié.
Et dans les entreprises, les ateliers que vous mettez en place, c'est réapprendre à prendre une feuille, un stylo et s'exprimer, trouver comment écrire, enfin.
Alors c'est pas des formations, parce que j'anime aussi, j'ai un diplôme de formatrice et une expérience de 15 ans de formatrice, j'ai une expérience de formatrice aux écrits professionnels, qui là est un petit peu plus technique, et un petit peu plus scolaire entre guillemets.
Ouais.
Mais les ateliers d'écriture là dont je parlais, c'est vraiment des ateliers d'écriture créative. Donc c'est vraiment l'expression plaisir. On n'est pas dans un cadre scolaire, on n'est pas dans du jugement de valeur, on est dans de la bienveillance, du ressenti. Je guide les gens pour qu'ils aient quelque chose à écrire, mais c'est vraiment pour se faire plaisir. Et en entreprise, il y a des comités d'entreprise qui mettent en place ce genre de choses. C'est très important, d'autant plus que ça peut aussi renforcer la cohésion, hein, l'écriture est cohésive, donc la cohésion d'équipe. Donc ça arrive aussi que ce soit mis en place en entreprise, pas assez souvent à mon goût. Mais,
mais c'est des ateliers qui existent et ça doit être bien intéressant de s'essayer à l'écriture créative. On le fait pas souvent et ça doit être un exercice qu'on pourrait retrouver avec plaisir. Votre statut, alors j'ai beaucoup reçu d'intermittents dans cette émission. Vous êtes artiste, puisque vous êtes auteur, écrivaine de romans. Vous êtes artiste, mais vous n'êtes pas intermittent. Comment ça se passe du coup actuellement pour vous ?
Alors, juste avant, je tiens à dire que je soutiens bien sûr les intermittents, parce que c'est très important, mais c'est vrai que moi, je fais partie des artistes auteurs, hein, parce qu'on est qualifié comme ça par l'URSSAF depuis depuis récemment qui ne bénéficient pas du statut d'intermittent au même titre que tous les plasticiens, les peintres, les sculpteurs, les photographes. Enfin, voilà, le monde de la culture, les intermittents bien sûr en font largement partie, mais c'est pas juste ces artistes-là. Il y a plein d'autres artistes qui font partie du monde de l'art et de la culture, et je trouve qu'on oublie un peu parfois. Et c'est vrai que récemment, donc l'URSSAF nous a imposé de prendre un statut, je ne sais pas si c'est d'auto-entrepreneur, entreprise individuelle, c'est pas très clair, mais avec un numéro SIRET, voilà, on est considéré comme des entrepreneurs, ce qui me paraît un peu aberrant par rapport à nos activités.
Ouais, vous devez rendre compte de, j'imagine, de chiffres d'affaires, de clients. Bah,
on doit faire des déclarations. On est imposé sur nos, enfin, on est imposé déjà par les impôts, mais là on a des charges à verser par rapport à nos revenus. Mais c'est vrai que tout le monde est même maintenant au même régime de l'URSSAF. Alors c'est vrai que moi je suis pas une grande connaisseuse en la matière, mais c'est pas du tout évident à gérer. En plus, comme le système est nouveau, il y a beaucoup de quoi quand des gens sont prélevés de beaucoup plus que ce qu'ils gagnent. Enfin voilà, on peut pas faire nos déclarations au temps voulu.
un statut plus que complexe, donc
c'est assez complexe, et on a l'impression qu'il faudrait être presque des hommes, des femmes d'affaires là pour s'y retrouver. En écrivant des livres, c'était pas mon but de d'avoir une entreprise, on va dire.
Quand on se lance dans une carrière artistique, c'est difficile à imaginer que l'une des grosses parties de votre travail ce soit, oui, de devoir gérer une entreprise.
Bah oui. Non, mais c'est vraiment beaucoup de tracas administratifs en plus, des charges en plus, même si on a des tout petits revenus. Enfin, et en plus, le site n'est pas au point, donc je vous dis, on peut pas faire on n'a pas pu déclarer encore les revenus de l'an dernier, du coup, ça nous pénalise à d'autres niveaux. Moi je trouve que ça c'est aberrant et qu'on est vraiment très mal loti au niveau du statut, que ce soit des artistes auteurs ou les artistes plasticiens.
Et pour vous qui êtes autrice, la période que l'on vient de vivre et dans laquelle on est encore un petit peu, qui était la période de confinement, de pandémie, comment vous l'avez vécu personnellement? Comment est-ce qu'elle vous a impacté ?
Au niveau de la création, je n'ai pas trouvé que c'était très porteur, d'autant plus que moi j'étais sur la fin d'un projet là, de tapuscrit que je voulais soumettre à des éditeurs, mais évidemment la période n'est plus très propice. Je venais de sortir ce petit recueil là, humoristique que j'avais prévu de promouvoir lors de salons Vague des Livres. Je m'étais engagée dans la préparation d'un Vague des Livres de Villefranche. Et du coup, ça m'a un peu coupé l'herbe sous le pied. Et comme j'étais pas engagée dans un projet, j'ai pas eu du cœur à m'y remettre. Parce que quand on est privé de... Comment dire ? On se sent un peu privé d'avenir, on se sent un peu privé de visibilité. Et c'est très compliqué. La période était un peu anxiogène aussi, à titre personnel, donc c'est un peu compliqué de se concentrer. Donc j'ai quand même lu un peu. J'ai eu aussi, j'ai remplacé les ateliers en présentiel par des ateliers par email, ce qui est très intéressant, mais qui demande plus de travail. J'ai essayé de gérer, de gérer les reports, les choses comme ça, et tout ça, malgré tout, ça occupe beaucoup. De voir comment on pouvait se combiner avec beaucoup d'incertitudes aussi.
Ouais, il a fallu réinventer vos activités.
Réinventer nos activités, voir celles qui étaient en cours qui ont été stoppées net, se dire oh là là, ben voilà, j'avais par exemple une session là qui devait démarrer en lycée avec des secondes. Ce budget-là, je l'aurais pas cette année. Comment je fais ? Enfin voilà, il y a tout ça, c'est assez anxiogène, que ce soit au niveau des revenus, au niveau personnel.
Ouais, la situation est plus que compliquée. La reprise là, qui se dessine, le déconfinement qui a commencé lundi, pour vous, comment ça va se passer ?
Alors sur les ateliers de début de semaine, on a continué par email. Par prudence, mais à partir du 16 mai, donc j'ai demandé aux participants de l'atelier du samedi, hein, qui s'intitule « De-ci, de-là », de voter. Et de voter pour un atelier soit en présentiel, soit en distanciel. Et ils ont voté majoritairement pour un atelier en présentiel. Donc voilà, j'ai essayé d'espacer l'état, de désinfecter les locaux, demander à chacun de prendre ses précautions. Il n'y a pas de risque zéro. En même temps, l'atelier d'écriture, c'est quand même un lieu de rencontre, d'échange. Par email, on perd tout cet aspect-là. On perd tout cette convivialité-là aussi. C'est les gens ont plaisir à se retrouver, à écrire dans ce cocon un peu protecteur qu'est l'atelier.
Et donc, il y a ces ateliers-là qui reprennent. Alors, je sais que la vague des livres, le salon du livre de Villefranche de cette année a été annulé. On espère qu'il y aura d'autres rendez-vous pour vous, pour rencontrer votre public en tant qu'écrivaine.
J'espère aussi, mais pour l'instant, je suis un peu dans le... qu'on va laisser passer l'été et puis qu'on va voir un peu ce qu'il en est à la rentrée, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas si... on est en déconfinement, mais on ne sait pas si ça ne va pas repartir. On a toujours beaucoup d'incertitudes encore quant à l'avenir. Donc, vaut mieux pas trop se précipiter, je pense, et attendre un peu de voir comment la situation évolue et repartir plus sereinement, peut-être.
Aimerait bien avoir une boule de cristal en ce moment pour
savoir
comment ça va se passer.
Je pense que je ne suis pas toute seule dans ce cas.
Oui. Eh ben, merci en tout cas, Sylvie Kellet, d'être venue témoigner de votre situation, de ce qui vous arrive en tant qu'artiste-auteur, un statut particulier. Merci d'avoir partagé ça avec nous. On vous retrouvera peut-être dans cette émission prochainement.
Oui, j'espère, peut-être, pour vous faire partager des coups de cœur lecture, par exemple.
Eh ben, ce serait super. Merci beaucoup encore une fois et à bientôt. Bonne fin de journée.
Au revoir.
C'était Sylvie Kellet qui était avec nous dans Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Allez, avant de se quitter, je vous propose une dernière chanson, dernière petite pause musicale. On écoute Bertrand Belin et Camélia Jordana qui chantent ce que cherche, je pense, tout auteur. C'est le mot juste.
Si tu crois que là-bas, si tu crois qu'il y a mieux pour toi, va.
Si t'en coûte de voir une route sans l'emprunter, va. On t'oubliera. On peut faire ça.
Mais pour notre bonheur,
soigne tes âmes.
Belin et Camélia Jordana sur Calade avec le mot juste. C'est la fin de cette émission Ensemble sur Calade que vous pourrez réécouter sur notre site internet www.radio-calade.fr. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau moment à passer ensemble de 12h à 14h. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos intervenants et invités de cette émission. À demain dans Ensemble sur Calade. Ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.